2014. Alors, Jean-Claude, tu sais que c'est en Chine l'année du cheval 2014.
Oui, bien sûr.
Ah, bah, évidemment. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux, ce dont je vous remercie. Avec aujourd'hui, vous l'avez entendu, Jean-Claude Adelin.
Bonjour.
Bon, ok pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes.
Hein. Allez, c'est parti.
Alors, on va commencer un peu à jouer avec les mots, finalement. Et quelle cavalière, quel cavalier ne connaît pas la petite formule mnémotechnique qui lui permet de retenir le nom des principales couleurs de pelage des chevaux. En fait, on ne dit pas que le pelage du cheval, mais qu'on appelle une robe, la robe du cheval dans le langage équestre. Alors, est-ce que tu as appris ça, Jean-Claude, le fameux bambisgal?
Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Alors c'est ce moyen mnémotechnique, ban, B-A-N, donc B comme baie, A comme alzan, N comme noir, etc., etc. Donc ça permet, en se récitant cette petite formule magique, de retrouver les couleurs des robes de chevaux, parce qu'effectivement il y a énormément de...
Et comment tu dis là? Je vais le noter.
Alors ban, B-A-N,
oui,
bis...
Oui,
bis. Comme bis, hein, ouais. Quand on a réussi, BIS. quand on a été formidable sur une scène de théâtre, on est bissé.
Exactement.
Égal G-A-L. Pas comme Maurice, hein.
Ah, ni comme Fabien.
Ni comme Fabien. Bon, donc, un cheval a une robe. Et ce mot robe nous vient de l'ancienne langue germanique qui signifie en fait un butin, une rapine, un rapt. Il est à l'origine de notre verbe dérober, que l'on retrouve en anglais sous la forme voler, to rob, et un voleur, ça se dit robber. Et on le trouve aussi dans l'ancien provençal rauba ou l'espagnol robar. Robar, voilà, c'est voler. Alors les historiens considèrent que l'étymologie de ce mot serait liée à la coutume ancestrale qui faisait que les ennemis vaincus étaient dépouillés de leurs armes, mais également de leurs vêtements. C'est-à-dire, bon, il restait pas grand-chose, hein, et ils étaient aussi un petit peu dépouillés de vie de temps en temps. Alors, ce sens de butin est encore fréquemment employé en français jusqu'au XVIe siècle avec l'expression en robe, alors nous dirions aujourd'hui à la dérobée, autrement dit en cachette, mais également de bonne robe, c'est-à-dire de bonne prise en parlant d'une femme qu'un homme a su séduire. Hein, c'est joli comme ça. Et ce n'est que vers le milieu du XVIIe siècle que le mot robe prend par analogie le sens de pelage de certains animaux et donc, on l'a vu, plus particulièrement le pelage du cheval. Alors, toujours au XVIIe siècle, robe est à l'origine du mot robin, une appellation péjorative donnée aux juges et aux avocats qui aujourd'hui encore plaident ou rendent la justice revêtue d'une ample robe. On a tous vu des procès à la télévision, on voit comment aussi bien les avocats que les magistrats sont vêtus. Et si nous remontons un peu dans le temps, donc là on va faire quand même un saut assez important, donc à l'époque médiévale, nous voyons que robin était le nom donné aux moutons. Au mouton. Et par extension, à un paysan prétentieux.
Donc, mais Robin des Bois, c'est un mouton des bois?
Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Donc ce Robin mouton, c'est un Robin des prés, tout le contraire effectivement d'un Robin des Bois.
D'accord.
C'est un peu différent. C'est incroyable, il lit à travers mon ordinateur, il est formidable. À cette même époque, Robin est à l'origine du mot robinet. Tout simplement parce que généralement le tuyau d'une fontaine publique avait la forme d'une tête de mouton. Voilà, on le décorait comme ça, une tête de mouton qui crachait l'eau. Alors, ça va te toucher, Jean-Claude, sauf une fontaine à Bruxelles, Jean-Claude, qui représente un petit bonhomme qui exhibe un robinet d'un tout autre style. Comment il s'appelle ce petit bonhomme,
hein? Mannequin Peace.
Voilà. Et alors, c'est sur quelle place, j'ai cherché, c'est sur quelle place de Rodez?
Place de Brocaire.
C'est sur la place de Brocaire, voilà, d'accord, je voulais pas dire de bêtises, mais tu confirmes. Et alors, pour clore cette tuyauterie complexe qui, partant d'un pillage, passant par le pelage du cheval, une robe de magistrat, des paysans et une fontaine à tête de petit mouton, voire une fontaine à tête de petit bonhomme, le messager du cheval va s'arrêter un petit instant sur un prénom de même étymologie que celui de Robin. Ben, c'est celui de Robert. Et je pense que cela va te plaire aussi, Jean-Claude, parce qu'en effet, dans le langage argotique d'aujourd'hui, les Roberts désignent les seins d'une femme.
Mais oui, mais bien sûr.
Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'au 19e siècle, et ça va encore te plaire, Jean-Claude, et plus précisément, retiens bien, en 1888, ça te dit quelque chose?
Ah oui, un petit peu, oui.
Robert est le nom de l'entreprise qui est la première à fabriquer de façon industrielle des biberons munis de tétines en caoutchouc.
D'accord. Et c'est pour ça qu'on appelle les Robert, les saints d'une femme.
C'était l'entreprise Robert qui a première à faire ça, c'était Tine de Biberon. Et donc, évidemment, c'est passé dans l'argot pour parler des saints des femmes. Alors Jean-Claude, justement, 1888, ça c'est une date qui est importante, hein, et tu es en train de monter une pièce de théâtre qui a été écrite précisément en 1888 par l'auteur suédois August Strindberg, et cette pièce s'appelle Mademoiselle Julie. Alors d'abord, pourquoi ce choix? Pourquoi tu as choisi cette pièce?
J'ai choisi cette pièce et en fait c'est plutôt elle qui m'a choisi. C'est tombé sous le sens puisque j'avais envie de faire une pièce de théâtre dans laquelle je pouvais inclure mes chevaux. Et donc c'est une pièce qui parle de domination, de soumission. Et il parle énormément de chevaux puisqu'à l'époque, évidemment, les gens voyageaient encore à cheval. Et donc du coup, c'est devenu d'une évidence parler de domination et de soumission. Et voilà, et de mettre des humains et des équins sur au même endroit, forcément, il y a de la domination, il y a de la soumission.
Alors vous serez combien sur scène en comptant nos amis à quatre pattes, hein?
Eh ben, si on compte tout le monde, nous serons cinq, hein, puisqu'il y a trois bipèdes et deux quadrupède.
D'accord.
Quadrupède.
Dru.
Quadrupède. Ouais.
Donc les trois bipèdes en question, j'ai lu la pièce, donc je sais qu'il y a un homme et deux femmes.
Voilà, il y a un homme et deux femmes. Alors si tu me laisses avec ça, j'en ai pour 4 heures.
Ah ben écoute, vas-y.
Sauf si tu as une question précise.
Non, mais vas-y. D'accord. Vas-y.
Donc,
vas-y,
un
vas-y.
Homme, deux femmes. Alors, c'est l'histoire donc de voilà de la domination et de la soumission qui est déclinée sous plein de facettes, c'est-à-dire physiquement, mentalement, socialement, au niveau économique aussi. Et donc August Strindberg, il a écrit cette pièce à une époque où la femme n'était pas considérée comme elle l'est aujourd'hui. D'ailleurs, il était un petit peu moderne à son époque, et le fait de sa modernité, il a été interdit. Voilà, donc il pouvait
en
pas jouer
dans son pays.
En
déjà.
Suède, dans son pays, il pouvait pas jouer. Il a dû venir la jouer en France, au théâtre Antoine à Paris.
Pour obscénité, je crois.
Pour obscénité, et puis aussi surtout, c'était tout le clan féministe qui avait complètement censuré la pièce, parce qu'il mettait la femme dans un statut qui n'était pas acceptable à l'époque, et qui était donc une femme qui pouvait à la fois être sensible, à la fois être complètement perdue, émouvante, aimante, en manque d'amour, mais à la fois aussi arrogante, dirigeante, voilà. Et donc ça, c'était pas tout à fait compatible avec les mœurs de l'époque.
Et alors, je crois que il a pas pu monter. Enfin, sa pièce a été interdite en Suède, donc il a fait le voyage à Paris.
Voilà, c'est ça. Il a fait le voyage à Paris, et à Paris, il a été aussi censuré. Il a dû changer certaines choses.
Changer certains
passages de la pièce.
D'accord. Oui. Et donc, la pièce a pu se jouer. Alors, c'est une pièce qui est quand même intéressante dans la mesure où elle a été reprise par pas mal de metteurs en scène. Je pense en particulier au XXe siècle par Boris Vian.
Voilà, lui il a fait une traduction, Boris Vian, et puis il y en a après surtout ce qu'on peut dire pour le grand public, c'est que cette pièce a été jouée par Juliette Binoche, par Isabella Gianni, par Fanny Ardant. C'est une pièce qui est jouée par les actrices, elles adorent cette pièce parce que le rôle est fabuleux, c'est un rôle tragique, mais c'est à la fois un rôle bouleversant, émouvant, c'est un rôle avant-gardiste pour les femmes. Et en plus, Juliette a très bien défini la chose, elle a dit que c'est en fait c'est le Hamlet au féminin.
C'est le Hamlet au féminin, oui.
Voilà,
tout à
donc
fait,
c'est,
oui.
Et Hamlet étant un des plus grands rôles du répertoire.
Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Je crois que tu as une grande admiration pour Shakespeare.
Hein. Oh, bien sûr, évidemment,
fois, hein.
c'est quand même un
c'est,
peu
c'est
notre
premier,
maître à tous.
C'est,
oui,
c'est notre
bien
maître
sûr.
À tous, absolument. Alors donc, dans cette espèce de je dirais pas de confrontation, mais je vais essayer de trouver le terme, en fait, de cette espèce de contact un petit peu bizarre entre ces trois personnages, tu as pas repris la pièce en mot à mot, mais au contraire, tu as gardé l'esprit de la pièce, mais tu as tenu à l'actualiser, c'est-à-dire à faire une pièce de 2014.
Voilà. Et ça, en fait, d'ailleurs, Boris Vian, il en parle dans son introduction, dans l'introduction de la présentation de sa traduction à lui. Il dit qu'il est normal et il est sain d'ailleurs, qu'une pièce soit retraduite, lui dit, je ne sais plus, tous les 20 ans ou tous les 30 ans, mais qu'elle soit retraduite pour les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'on ne peut difficilement expliquer, montrer, intéresser, divertir, puisque c'est toujours de la culture qui est sous le biais du divertissement. Ben, les gens, d'une époque à une autre, ben, y a une perception qui est différente. Voilà, il y a des concepts qui sont appréciés de façon différente, quoi.
Absolument. Voilà. Donc, la rendre compréhensible à un public d'aujourd'hui, en particulier un jeune public d'aujourd'hui. Mmh. Mais alors, on va prendre une pause musicale. On restera dans l'actualité puisque c'est Sappho qui chante Léo Ferré. Et le titre,
magnifique,
c'est Le Flamenco de Paris. Jean-Claude, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, dans le dur de la pièce. Je crois que tu as aussi, en la montant, un certain nombre d'idées derrière la tête. La première, c'est de faire venir le jeune public qui n'a plus l'habitude de venir au théâtre. Mmh. Et la seconde aussi, c'est une façon de le faire, c'est aussi de casser ce que tu appelles les murs traditionnels du théâtre, alors que je vais rappeler rapidement, c'est-à-dire, bon, tout le monde connaît l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, une scène de théâtre, c'est forcément limité, mais toi, tu as le quatrième mur que tu veux faire casser. Et troisième question, c'est que cette pièce n'a pas vocation à rester à Rodez, puisqu'elle sera jouée où ça?
Bien sûr, elle sera jouée à Avignon, à Aurillac, donc ça, c'est les premiers lieux extérieur au Haras National de Rodez.
D'accord, et après, donc la première aura lieu évidemment au Haras de Rodez.
La première à Rodez,
c'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous dire les actions que tu as menées vis-à-vis des jeunes pour justement leur dire le théâtre, c'est aussi quelque chose que vous pouvez fréquenter?
Voilà, alors j'étais au lycée Foch, au lycée François Destin, à la MJC de Rodez, bien sûr. Et donc, j'étais au contact des jeunes. Je leur ai parlé de la pièce. J'ai demandé ce qu'ils pensaient du théâtre, comment ils le voyaient, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de silence. Ça, c'était très impressionnant, le silence. C'est-à-dire que j'avais parfois l'impression de parler une autre langue. de ne pas parler le français. Et donc, je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose à faire. Je le pressentais. Ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier. Et que des scènes de théâtre, j'en ai croisé quelques-unes. Et c'est très difficile d'avoir des... Surtout les ados, en fait.
Surtout les ados.
Surtout
oui.
Les ados. Les ados, moi, je les prendrais plutôt, j'élargirais un petit peu, mais je dirais du 14 à 20 ans, quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est le théâtre est quelque chose qui ne les intéresse pas trop. Mais il n'y a pas que le théâtre, il y a toute la culture aussi. C'est-à-dire que là maintenant, d'autant plus avec Internet, encore que Internet, c'est un outil de culture qui est très important, mais sur lequel il ne se branche pas sur la culture. Il se branche énormément sur le divertissement, sur les choses rapides, le zapping, l'émotion forte, tout de suite, rapide, maintenant. Et puis après, on passe à autre chose. Et on vient d'oublier ce qu'on vient de voir. Et il y a pratiquement plus de mémoire, il y a presque plus de mémoire culturelle. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Moi, j'y suis très, très sensible, puisque moi, je n'ai pas été éduqué dans cette veine-là, dans la veine de la culture. Je viens d'un milieu qui est plutôt rural, et donc où il n'y avait pas de... La culture se limitait exactement à la télévision. Mais de par le métier, j'ai commencé à apprendre et à découvrir qu'est-ce que c'était la culture... Et évidemment, la mémoire de l'histoire et de notre histoire et aussi le divertissement. C'est-à-dire que le théâtre fait partie à la fois de la culture et à la fois du divertissement. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je peux pas partir de cette terre avant d'essayer de faire quelque chose de bien. Donc, essayer d'amener des jeunes à la culture, pour moi, c'est quelque chose d'important. De le faire par le théâtre m'amène à développer plein de choses. C'est-à-dire que au niveau de la créativité, au niveau de la recherche, au niveau de l'inventivité, au niveau du divertissement, les jeunes m'ont propulsé, ils m'ont fait faire un bond en avant. C'est-à-dire que comment faire pour faire venir au théâtre des gens qui n'ont pas envie d'y venir? Eh ben, il faut parler leur langage. Il faut accéder à leur code, à leur mode, à leurs désirs, à leurs envies, à leurs passions.
D'où le fait aussi que tu as réécrit complètement
exactement
la pièce,
voilà.
sans la trahir, mais en la mettant dans un langage contemporain que tout le monde comprend et que tout le monde pratique.
Voilà, c'est-à-dire que le propos et les intentions de l'auteur restent, ils restent même aux mêmes endroits qui sont installés dans la pièce, sauf que le langage est totalement différent, puisque c'est un langage qui est adapté à aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour le langage. Après, pour le visuel, j'ai transformé pas mal de choses, puisque à l'époque, en 1888, c'était deux serviteurs, c'était une bonne et puis un homme à tout faire, qui était au service d'une fille d'un comte. Là, aujourd'hui, ce sont des artistes circassiens, c'est-à-dire un dresseur de chevaux, une acrobate, qui sont au service d'une ancienne, d'une fille d'un producteur de cirque, qui est elle a fait du cirque aussi dans son enfance et tout ça.
Donc, tu as transposé le lieu.
Donc, j'ai transposé le lieu, transposé la profession des personnages, qui donne autre chose, c'est-à-dire que ce soit, parce qu'en fait il va y avoir de la vidéo aussi évidemment, puisque c'est pas le cirque à l'ancienne, c'est le cirque moderne qui représente aujourd'hui. Donc c'est pas le cirque Bouglione, c'est plutôt des cirques qui sont des cirques plutôt contemporains. Et donc à partir de là, il y a de la vidéo qui donne de la lumière, qui crée la lumière, c'est une lumière en mouvement, il y a de la vidéo réellement sur un écran, il y a aussi de la danse, il y a du chant, il y a des chevaux en liberté, et il y a aussi évidemment du tissu pour le cirque, il y a du trapèze et des acrobaties. Donc, c'est-à-dire que c'est une pièce tout à coup qui prend une autre dimension.
C'est ça que tu appelles bousculer le quatrième mur?
Alors, bousculer le quatrième mur, c'est autre chose encore, parce que ça, c'est venu évidemment de par la suite de ces interrogations, c'est-à-dire que le quatrième mur est le mur qui se situe entre le spectateur et la scène.
Ah, alors voilà. Ça explique un petit peu plus.
Voilà, ce mur-là, habituellement, il est en béton armé, et là, je l'ai fait ouvert, c'est-à-dire que le public, il va participer, il va être à l'intérieur de la pièce, et les acteurs vont pouvoir venir à l'intérieur du public. Donc, il n'y aura pas de séparation, comme il y a souvent, avec ce quatrième mur qui est complètement fermé entre les acteurs et les spectateurs. Voilà.
D'accord. Donc finalement, c'est moi je suis tout à fait passionné évidemment par ce projet parce que c'est à la fois une pièce classique de la fin du 19e siècle qui a été reprise quelques fois. J'ai parlé tout à l'heure de Boris Vian bien sûr, mais jamais, et j'ai lu la traduction de Boris Vian, tout ça restait quand même finalement assez collé à la pièce d'origine de Strindberg. Alors que ce que tu fais, c'est que, comment dirais-je, décolle cette pièce d'un petit peu tout ce qu'elle avait d'un petit peu poussiéreux, en étant d'une fidélité absolue à la trame, à la dramaturgie, mais effectivement en faisant une pièce qui aurait pu être écrite il y a un an ou 6 mois, etc. C'est-à-dire
elle est écrite il y a un mois.
Et elle est écrite. Oui, j'en sais quelque chose.
Et oui, parce que l'adaptation littéraire, enfin l'adaptation du texte, du langage, de la parole, et voilà, on vient de la faire il y a un mois, quoi.
Il y a un mois.
Oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui, donc c'est complètement moderne. Hein.
C'est complètement moderne.
C'est une pièce d'aujourd'hui. Oui.
Et c'est là aussi où on voit le génie
d'un auteur comme Strindberg.
D'un auteur, c'est qu'effectivement, ce qui
va
être
à
la fin du tient le choc encore aujourd'hui. Il suffit d'un petit peu la remettre. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà. Alors, on va terminer peut-être par...
Par les dates, peut-être?
Alors, tu vas nous donner les dates, d'abord, bien sûr. Donc, à Rodez.
Donc, au Hara de Rodez, la première aura lieu au mois de juin, le 11. Et puis, on jouera le 12 et le 13. Après, on passera au mois de juillet, où on jouera le 29, le 30, le 31. Et puis, au mois d'août, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ce sera entre 20h30 et 21h.
Oui, et grosso modo, elle va durer combien de temps, la pièce?
Et la pièce va durer 1h30 à peu près.
D'accord. Alors, on est tous tellement heureux qu'on se sent léger comme les Turkmènes à cheval qui disaient que le cheval est pour l'homme comme les ailes pour l'oiseau.
Ah oui, joli.
C'est joli. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez. Deux actrices, un acteur et deux chevaux acteurs au Hara de Rodez, aux dates que Jean-Claude vous a indiquées. Alors, vous pouvez retrouver l'émission sur CFM Rodez 107.9, donc tous les mercredis et les samedis à 12h35, et sur Villefranche de Rouergue, donc 90.2. Et évidemment, vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toi, Jean-Claude, et merci. À toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux. Et surtout, ne zappez pas Mademoiselle Julie. Elle est adorable. Ciao, ciao.